Je sais pas quoi dire de plus. Enfin, si, je vais raconter des choses. Non, simplement, effectivement, j'ai beaucoup de plaisir. Je viens pas beaucoup, malheureusement, j'aimerais venir plus souvent, mais à venir à Bourges, dans cette école, enfin, quel que soit après les niveaux d'études auxquels je peux être confrontée, mais que ce soit cursus normal ou post-diplôme, etc. Mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup de plaisir parce que, au fil des années, parce que quand même, il n'y a pas beaucoup d'écoles des beaux-arts en France qui, comment dire, ont cette attention à la question du son dans toutes ses acceptions, et je vais en parler, y compris voilà, une radio. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est assez précieux et assez intéressant de venir. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'allais aussi en apprendre, parce que évidemment aller dans une école, c'est aussi apprendre des choses, et du coup venir m'entretenir avec des post-diplômes, c'est la possibilité, en tout cas là, une invitation à aussi découvrir des projets. Ça, on verra ça demain, voilà, donc un dialogue, et c'est toujours toujours intéressant, et c'est un exercice que j'aime bien, Bourges. Et puis j'ai eu beaucoup de, mais ça c'était avec la troisième année, beaucoup de plaisir aussi l'année dernière à aller à Grenoble, à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, à l'invitation de Bernard Joisten, mais c'était quand même avec des troisième années plutôt son. C'était aussi une belle, beau moment de rencontrer des étudiants, donc en troisième année, c'est autre chose, qui déjà ont quand même une attention et une pratique autour du son assez intéressante. Voilà. Mais à part ces exemples-là, il n'y a pas énormément encore d'écoles qui mènent ces expérimentations et ces laboratoires autour du son, autour de l'écoute, autour de la radio, etc. Et on va en parler. Et puis d'autre part, évidemment, étant une fidèle lectrice d'Alexandre Castan, je ne peux que renvoyer à tes écrits quand même, parce que pour moi, c'est aussi des écrits qui comptent et qui ont compté, et ceux à venir. Donc c'est aussi, quand on est invité quelque part, c'est comme des effets de miroir aussi quand même. C'est un travail en commun qui est fait au fil des années. Donc je vous renvoie aussi évidemment à sa bibliographie. Mais c'est pas une formule rhétorique, hein. C'est vrai que c'est un laboratoire quand même, comme ça, virtuel, qu'on mène à, je crois, à plusieurs en France. Et donc effectivement, je placerai cette référence en arrière-plan implicite. Et puis, de toutes les manières, le laboratoire portatif auquel renvoie tout texte, c'est UbuWeb. Donc on va parler d'un certain nombre de choses, mais évidemment, la référence à toujours avoir à l'esprit, c'est que, enfin, de plus en plus désormais, quand on prend un livre, et on a Google à côté de soi, mais surtout là, en l'occurrence, UbuWeb, qui est un peu comme un, enfin, en tout cas pour moi, comme un Google Earth, dont je ne ferai jamais le tour, et je crois que c'est pas possible d'en faire le tour, mais c'est formidable parce qu'on peut toujours partir et faire des visites. Donc UbuWeb, donc finalement la seule référence bibliographique que je donnerai là, même si j'en ai un peu établi une dans mon livre ou dans mes livres, c'est UbuWeb. Là, ce sera simple comme ça. Vous pouvez notamment, enfin, UbuWeb, c'est-à-dire toute la partie effectivement qui évoque les arts sonores, mais aussi la radio, mais aussi des textes théoriques, etc. Donc et y compris des œuvres. Donc UbuWeb. Voilà, donc je me suis effectivement demandé comment j'allais un peu structurer, en dehors de conversations secrètes, hein, parce que ça c'était le deuxième volet, mais on en parlera demain. Donc comment j'allais un peu procéder. Donc je vais peut-être tenir des propos introductifs un peu généraux pour quand même, même si vous savez tout ça, mais revenons sur le sujet, parce que quand on parle du son, c'est évidemment vite dit, on va voir qu'il faut essayer de déplier toute la cartographie de ce que implique la question du son. Donc je vais plutôt établir une sorte d'introduction générale, citer des œuvres, et puis après, plus précisément, deux exemples, parce que c'est toujours difficile de se dire qu'est-ce qu'on va faire écouter. Il y a tellement de possibles, et vous les retrouverez sur UbuWeb, donc je ne m'inquiète pas à ce sujet-là. Mais par contre, je voulais prendre deux exemples complètement dans des chronologies différentes. D'abord, Dubuffet, Il se trouve qu'enfin, on a une édition sonore maintenant disponible de Coucou Bazar. Donc, on écoutera un peu du Buffet. Enfin, je vais vous présenter les œuvres sonores et les propos de du Buffet sur le son. Et puis, à l'autre bout de la chronologie, Biosphère, qui est un collectif dont je parlerai. Mais en l'occurrence, en plus, ce qu'on écoutera, on écoutera des fragments d'une pièce qui s'appelle « Autour de la Lune ». Bon, évidemment, ça se réfère à Jules Verne. Mais en même temps, c'est une œuvre sonore et aussi qui a été créée pour la radio. Contrairement à du Buffet, où là, les œuvres ont été conçues comme une création sonore, tout simplement. Même si ça a été, je pense, diffusé. Mais ça, ça sera dans un deuxième temps. Et puis, comme on est dans un format de, là, ici, de un peu un séminaire, finalement, c'est-à-dire que tout le monde peut, enfin, voilà, c'est pas une conférence devant un public. Donc, effectivement, n'hésitez pas à m'interrompre dans le cours. Et après aussi, on prendra un petit peu de temps avant de finir, voilà, pour entamer le dialogue, enfin, qu'on aura demain séparément avec vos propositions, mais quand même, ce sera le moment de, peut-être, de poser des questions. Voilà, donc j'essaierai de regarder l'heure. Alors, je vais commencer, et peut-être, puisqu'il faut, comment dire, de temps en temps faire des hommages, malheureusement, là, l'actualité me suggère deux noms associés au son, à la musique, à la chanson, etc. Et donc, peut-être que je dédierai cette causerie à Pierre Boulez et à David Bowie. C'est pas très original, mais quand même, je pense que les associer tous les deux dans la sphère, là, dans la sphère, voilà, céleste, c'est peut-être pas mal, parce que j'ai pas eu le temps de vérifier, mais peut-être. Boulez a-t-il écrit sur Bowie ou s'est-il prononcé sur Bowie ou pas ? Ça, depuis deux jours, je voulais vérifier, mais j'ai un peu l'intuition que oui. Enfin, pas, il n'a pas écrit énormément, mais je pense quand même qu'il a été plus curieux que ce qu'on imaginait. Et peut-être, il faudra aller vérifier si, à un moment donné, la musique de David Bowie ne l'a pas intéressé. À vérifier. Et inversement, d'ailleurs... Peut-être que Bowie aussi était au fait des recherches voilà, de Pierre Boulez, qui a quand même incarné...
Alors, Boulez a failli avec Zappa.
Mais c'est pour ça, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je me dis, Zappa, ça c'est bien connu, mais enfin, sans qu'ils aient travaillé ensemble, un intérêt en tout cas, puisque apparemment Boulez se tenait au courant, puisqu'il connaissait Zappa. Donc voilà, hein, je chercherai chacun de notre côté, dans les deux sens. Parce que je pense que Bowie, évidemment, ça on nous l'a redit, était très aussi cultivé et curieux et qu'il devait connaître évidemment très très bien la musique contemporaine. Bon, donc voilà, on leur rend hommage et on continuera à les écouter. Alors d'autre part aussi, effectivement, s'intéresser au son dans toutes ses acceptions, je vais les déplier, peut se faire à partir de perspectives complètement différentes. Donc, enfin, il y en a des multiples d'ailleurs. Donc, juste pour rappeler que, me concernant en tout cas, c'est à partir de l'histoire de l'art. Donc, je ne suis pas musicologue, je ne suis pas du tout spécialiste de la musique, ni de près ni de loin. Un peu plus de l'histoire de l'art quand même. Et en même temps aussi du cinéma. Donc, c'est à partir de points d'observation qui sont l'histoire de l'art et l'histoire de l'art contemporain et l'histoire du cinéma, vraiment de manière complètement parallèle, que mon attention depuis très longtemps a été attirée par la question de la place du son, de la musique, des bruits, des voix. Évidemment aussi, c'est quelque chose que j'ai également très tôt repéré dans la littérature contemporaine. Donc c'est plutôt à partir de ces perspectives-là que je vais parler, et non pas à partir d'un domaine de spécialité qui pourrait être technique aussi, voilà. Et aussi, je n'ai pas non plus le point de vue d'un, pardon, d'un praticien, je ne suis pas, voilà, je suis juste historienne de l'art. Donc, je voulais donc rappeler que la place du son dans la création moderne et contemporaine, puisque évidemment cette histoire, elle recouvre les modernités, c'est-à-dire toute l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle. On ne peut pas se contenter comme ça de ne parler que de la période contemporaine, parce que cette réactivation ou ce... comment dire, cette actualité finalement depuis quelques années, à nouveau dans le champ de l'art contemporain ou de la littérature performée pour le son, c'est quelque chose qui se rejoue, enfin c'est un phénomène qui rejoue des engouements ou des intérêts qui, je dirais, se rejouent tous les 20 ans, mais en même temps en se référant quand même à l'histoire du XXe siècle, donc il vaut mieux quand même situer le point de départ. On verra pourquoi à partir à l'orée du XXe siècle. Donc la place du son et de la création, la place du son dans la création moderne et contemporaine désigne d'abord et avant tout, et c'est ça qui retiendra surtout ici mon attention, l'histoire des techniques d'enregistrement, d'où la proposition évidemment de regarder ce film et Conversation secrète. Donc les techniques d'enregistrement et de reproduction du son, ainsi aussi que l'histoire des images à l'ère de leur reproductibilité, pardon, le tout dès l'émergence effectivement à la fois de la photographie avant, mais surtout du cinéma à l'orée du XXe siècle, puisque effectivement, pour faire raconter cette histoire de manière très très condensée, c'est bien lorsque apparaissent à la fois l'histoire de la photographie, l'histoire de toutes les techniques de capture du son, de restitution du son, de la voix, etc., que cette affaire, cette aventure commence. Et elle concerne de manière assez coalescente la question des sons et des images, et vice-versa. Je crois qu'on ne peut pas tellement séparer, même si les domaines sont différents, mais tout de même, les problématiques fondamentales des techniques d'enregistrement et de reproduction, on doit associer son et image, même si après, les chronologies peuvent bouger, mais quand même. Donc, effectivement, ce que nous propose, ce que ces techniques d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image introduisent dans la pensée et chez les artistes aussi, c'est en même temps une interrogation sur les limites de perception des images, du son et du visible, puisque effectivement c'est cette question très très fondamentale qui a tout de suite évidemment mobilisé les penseurs, les artistes, évidemment là je renvoie à toute la pensée de la photographie et du coup des fantômes, enfin voilà, qu'est-ce que c'est que enregistrer une image, une trace, jusqu'à est-ce que c'est une émanation du corps, enfin ça, très vite aussi apparaissent des questions, des problématiques liées à des notions de d'étrangeté, voilà. Mais ça, j'en parlerai pas, c'est une affaire bien connue, une histoire bien connue, mais tout de même, elle rôde dans les parages du son, évidemment. Donc le son entendu dans toutes ses acceptions, donc de musique, de bruit, de voix, dans toutes ses acceptions, désigne évidemment aussi la reproductibilité du son et les limites même du sonore et de la musique, dans une remise en question même du champ musical au sens traditionnel et voire académique. En outre, la mise en exergue du son accompagne une réflexion sur la porosité des espaces d'expression dans un dialogue fécond entre différentes disciplines artistique qui, à l'orée toujours du XXe siècle, donc avec les avant-gardes, propose une sorte de dédéfinition de l'œuvre, et c'est la notion même d'œuvre d'art au sens traditionnel, ou comme les esthétiques l'avaient pensé, qui, de ce fait, se trouve interrogée aussi, voire évidemment l'auteur. Ça, c'est important, et donc... Je crois qu'il faut revisiter d'ailleurs c'est tout à fait agréable, donc revisiter vraiment toute l'histoire des avant-gardes du XXe siècle, parce que je crois qu'on n'en finit pas de toujours les découvrir, un territoire d'aventure assez passionnant, futurisme, etc. Alors ensuite, dans l'histoire du XXe siècle, il y a d'autres inventions comme la télévision, après le cinéma, puis après ainsi que la vidéo. Donc dans l'écho du bruit de la télévision, dans l'écho du son de la vidéo, ça, on est avant la guerre et après la guerre de Deuxième Guerre mondiale. La création sonore s'exerce de manière complexe, diversifiée, plaçant la référence à la musique et référence aussi à des musiciens en regard de recherches menées sur l'espace du son, mais aussi sur le langage, également sur la vocalité et sur les puissances du récit qui en découlent. Et là, on peut prendre quelques noms vraiment, mais vous les connaissez déjà, et de toute façon, on les retrouve tous sur UbuWeb et dans toute la bibliographie concernant les planètes sonores. Donc, par exemple, Dick Higgins, Olivier Cadio, je prendrai aussi Roman Opalka, notamment, et ou Jean Dupuis. Mais j'y reviendrai. Dans le domaine, par exemple, de la poésie sonore, qui est un domaine maintenant assez ancien, le travail sur la voix, alors ce travail sur la voix, il peut être de lecture, il peut être d'improvisation, ce qui est encore autre chose, accompagné ou non de musique, évidemment, côtoie aussi des expérimentations qui sont liées aux usages du magnétophone, et là, je renvoie évidemment, bien sûr, à toute la technologie d'enregistrement du son au XXe siècle, jusqu'à l'invention du magnétophone en particulier. Et puis, évidemment, après, par glissement logique, des médias électroniques, jusqu'au fichier numérique, sampling, etc. Donc, des formes diversifiées de formes d'oralité, qui sont pensées comme des échappées hors de l'espace du livre, parce que, évidemment, la question de l'oralité de la littérature est aussi une tentative pour un auteur, un poète, de sortir de l'espace du livre, de sortir de la page. Enfin, ça, évidemment, beaucoup, beaucoup d'auteurs en ont parlé, très précisément. Et donc cette échappée hors de la page du livre, hors de l'espace du livre, qui est un espace silencieux par définition et plutôt intime, un espace intime, et qui n'est pas un espace public, justement ces échappées rejoignent pour certains la création radiophonique, puisque la radio devient très très vite, et dès les années 30, ça... Bertolt Brecht en a bien parlé, un espace de création qui devient une mise en commun, un partage, un espace dialogique de la création et qui introduit évidemment du coup l'écoute, la question de l'écoute dont on parlera après. Alors par exemple, pour donner aussi d'autres noms très très connus qui à la fois ont fait cet usage du magnétophone mais aussi très vite se sont intéressés à la radio, c'est deux choses différentes mais quand même il y a une sorte de proximité théorique. Donc Henri Chopin, évidemment Bernard Heitzig, évidemment par exemple aussi Pierre Alféri. Je penserai aussi à Laurie Anderson, Christophe Honoré, Jonas Mekas et d'autres. Même Boris Charmatz qui est plutôt connu comme chorégraphe mais qui a réalisé quelques pièces radiophoniques, pas très nombreuses, deux, mais qui sont quand même là. Pour donner des noms un peu en vrac. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas de figure, il faut imaginer une pensée de la création qui ne cesse de faire, ou Claude Kloski par exemple, qui est un artiste contemporain, qui ne cesse de passer de l'espace de la page à l'espace radiophonique, à nouveau peut-être à l'espace de l'enregistrement et à celui d'une diffusion, mais qui est surtout imaginé comme public. Et c'est intéressant aussi de se demander poser la question de qu'est-ce que c'est que publier. Et qu'est-ce que c'est que poser la littérature ou le texte dans le rendre public dans un espace public, et qu'est-ce que c'est qu'un espace public. Par ailleurs, dans le cinéma, évidemment, le cinéma, forcément, est de nature sonore, même quand il était muet. Le cinéma, effectivement, offre une sorte de territoire absolument infini où venir étudier la question du son. Même si, évidemment, on va régler tout de suite la question de la bande-son, puisqu'on sait depuis longtemps, et surtout depuis Michel Sion, que la bande-son n'existe pas. Donc, on ne va pas parler que de la bande-son. Mais, au contraire, on va évoquer les puissances du son, de la musique, de la voix, dans des espaces cinématographiques qui sont très, très nombreux. Donc, je prendrai que quelques exemples, mais en tout cas, qui... accorde à ces puissances du son la première place, voire peut-être prépondérante sur l'image. Par exemple, un cas un peu extrême, bien connu, Blanche-Neige de Jean César Monteiro, donc cinéaste portugais malheureusement disparu dans les années 2000. Blanche-Neige est un film d'après Robert Walser, d'après le texte de Robert Walser, qui est un poème voilà, en prose sur Blanche-Neige, dont Jean-César Montero a décidé d'en faire un film sans images, mais finalement, il ne l'avait pas décidé au départ, et c'est devenu un film sans images. Enfin, il n'y a quasiment que quelques plans, et puis ensuite, on écoute le texte dans le noir, parce que il avait placé ses auteurs, enfin ses acteurs, dans le parc zoologique de Lisbonne. C'était un film en costume. Il s'apprêtait à mettre en scène Blanche-Neige, le texte de Walser. Et puis au bout de 2 jours de filmage, ça lui convenait plus. Enfin, il aimait bien ce que disaient les acteurs, mais l'image, le réel, l'embarrassait beaucoup. Donc, il a décidé de tourner la caméra sans même le prévenir quiconque. Il a donc tourné la caméra vers un mur, il a mis une veste dessus, mais par contre il a continué à enregistrer, et donc il a mis en scène le film sans pour autant que les acteurs soient filmés, mais ils ont joué le film. Donc ce film est absolument formidable. Alors il n'est pas exempt de toute image, il y a quand même une sorte de première image générique. On voit Rebel Razor, on le voit à la fin, on voit à un moment donné aussi une petite séquence où on voit Montero lui-même, mais voilà, quelques plans, il y en a 3-4, pas plus. Mais le reste, donc, c'est le noir. Et dans les versions, évidemment, étrangères, enfin françaises, par exemple, on a quand même le texte qui défile, donc, du sous-titrage en bas de l'image, mais on est quand même, on doit le voir dans le noir. Et donc, toute l'écoute est mobilisée de la langue portugaise, ce très beau texte. Éventuellement, si on ne comprend pas le portugais, on peut lire. Mais on est placé vraiment dans une situation d'écoute sonore en direct. Montero lui-même, d'ailleurs, donc on peut dire que effectivement, ce film, il l'a voulu très rapidement. Il n'avait pas pensé à ça au départ, mais après, il a vraiment tout fait pour que ça devienne une chambre d'écho. Et en même temps, il place le spectateur, effectivement, dans un espace-temps spécifique qui est entièrement mobilisé par l'écoute. Alors, ceci dit, tout le cinéma de Montero est complètement, enfin, si vous retournez dans cette œuvre, est complètement habité par la place de la musique. C'est vraiment peut-être voilà, la question de la musique. Alors, c'est le son, mais la musique, en l'occurrence, l'histoire de la musique est vraiment fondamentale chez Montero, et qui n'a cessé dans ses films de convoquer beaucoup de musiciens du passé qu'il aime beaucoup. Il y en a, voilà, comme Godard, enfin, ça serait un peu vain d'en faire la liste, mais aussi bien Mozart, Beethoven, enfin, ça va très 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 loin. Il y a beaucoup beaucoup de... Vraiment, il avait c'était un grand 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 connaisseur et mélomane vraiment très précis. Beaucoup de piano aussi. Donc, toute son œuvre filmique est totalement habitée par la musique, la présence de la musique, et aussi par des citations à des référents. Enfin, oui, c'est quand même une manière de travailler proche de Godard, beaucoup de références à la littérature et à beaucoup, 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 beaucoup de textes aussi, qu'il introduit de manière subrepticiste comme ça dans ses films. Donc, c'est le grand musicien du cinéma, on pourra dire, Robert Walser aussi, mais Montero à propos de Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige, c'est vraiment l'aboutissement de ses recherches, mais il faut aussi revoir maintenant tous ses autres films et être attentif à cette dimension-là. Par ailleurs, un jeune artiste, plutôt qui nous ramène aux années 2000, Dominique Petitgand, que peut-être vous connaissez ou qui est peut-être intervenu ici. Il est déjà venu, Dominique Petitgand ? Pas encore ? Ah oui, oui, c'est, oui, 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 parce que je le voyais un peu lié quand même à Bourges. Dominique Petitgand est un artiste qui développe depuis une vingtaine d'années, je dirais, une œuvre assez singulière qui consiste à ne concevoir que des œuvres sonores, et des œuvres comme des espaces sonores, donc il est très précis, voire maniaque aussi, dans sa manière de mettre les choses en place, mais il a raison, et il les conçoit comme des paysages mentaux, dans lesquels on doit entrer, prendre du temps, rester. Et la particularité de son travail, qui est un travail qui ne concerne pas du tout la musique, ni l'histoire de la musique, c'est le son et la voix, et en particulier la question du récit. Et donc, d'une certaine manière, toute son œuvre est assez documentaire. C'est plutôt, on pourrait dire, quelqu'un qui fait finalement du cinéma documentaire sans images. Toujours à partir de récits, soit d'histoires racontées, soit de témoignages qu'il a enregistrés auprès de certaines personnes. Et il nous restitue des récits qui sont enregistrés, montés. En revanche, il y a un gros travail de montage de ces récits. Donc, en ce sens, il écrit des textes avec ces récits-là. C'est pas simplement comme ça... des rushs, pas du tout. Et ces récits sont mis en espace. C'est là où on peut parler de paysages mentaux, puisqu'on rentre dans des espaces alors qui sont chaque fois différents, parce que selon qu'ils viennent à la boxe ou... à Maubuisson, enfin dans des espaces qui sont historiques ou non, petits, grands, moyens, des foires, enfin voilà, il repense toujours la mise en place de ces récits. Néanmoins, ces pièces sonores sont à écouter et bien souvent d'ailleurs, il propose aussi des séances particulières comme des séances de films, donc en donnant rendez-vous à une heure précise au public dans des salles de projection et on écoute vraiment, alors là, dans le noir total, des pièces. Donc il l'a fait au Forum des Images, enfin il l'a fait dans. Très, très, très régulièrement. Donc il y a aussi chez lui l'idée d'inviter le public à venir écouter une pièce comme on viendrait voir un film. Donc ce sont des petits...
C'est lui qui appelle ça cinéma pour l'oreille.
Oui, mais là, j'allais y venir, cinéma pour l'oreille, mais il l'a... Oui, bien sûr, il le revendique, mais ça, c'est aussi une notion qui a été... qui lui est antérieure, qui a été... employé, utilisé, développé, presque à l'orée de la musique concrète. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui vient aussi du cinéma. Et on peut se dire que dans cette boucle-là, on peut aussi... alors là, historiquement, on revient très, très en arrière. On peut évoquer, par exemple, plein de choses. Guy Debord a commencé par Debord, effectivement, et... toutes les tentatives, et là ça renvoie à l'histoire de l'AA cinéma, enfin de tous ces artistes qui ont souhaité attaquer le cinéma, le détruire, le défaire, en attaquant non seulement l'image, peut-être la pellicule aussi après, mais en tout cas radicalement en supprimant l'image, mais dans une histoire vraiment du cinéma expérimental. Ça, ça nous renvoie. Oui, alors donc ça c'est vraiment antérieur à Dominique. Voilà, c'est les années 52-53 à partir de ce moment-là. Donc là, on est vraiment très en arrière. Et c'est vrai que Dominique, c'est un domaine qui le passionne. Il connaît cette histoire-là. Et donc, je pense qu'il a emprunté cette expression qui a été reprise aussi à la radio. Enfin, bon. Mais il la revendique et il la reformule. En sachant que ces récits qui sont parlés et enregistrés, ils ne sont pas produits en direct, hein, donc là aussi c'est très précis, il le répète souvent. Donc il fait un travail après vraiment de création sonore qui génère un espace profond, un espace d'écoute en pointillé, parce que chez lui le silence est toujours très très présent et très important aussi comme des ponctuations et... Alors, la question de la ponctuation, là je renvoie à Peter Zindi, elle est importante non seulement en littérature depuis longtemps, mais même, surtout dans la question de la création sonore. Et en tout cas, sollicitant chez lui, tour à tour, un spectateur-auditeur qui est mobilisé dans un effort de concentration, parce qu'on écoute un récit, et ça s'arrête. Donc en même temps, l'inattention aussi, parce qu'au bout d'un moment, on peut se mettre à rêver, et donc être maintenu dans une attention flottante pour ces fameux films, effectivement, ce cinéma pour l'oreille ou ces pièces sonores pour l'écoute, l'écoute profonde. Alors, pour revenir un peu en arrière à l'histoire du cinéma, Robert Bresson aussi, évidemment, note sur le cinématographe. Ça, c'est intéressant de lire de sa part, non seulement, effectivement, ces notes qui sont passionnantes, mais il redit à quel point, finalement, au cinéma, pour lui, de manière définitive, le son représente l'élément, pour lui, le plus important. Et l'image devra être toujours seconde. Et c'est vrai qu'il faut réécouter tout le travail sonore qui est fait dans les films de Bresson pour s'apercevoir. On peut même les écouter sans regarder l'image, à quel point ça, c'est très, très, très précis. Il était aussi lui-même une sorte de maniaque également des objets qu'il mettait en scène jusqu'à la fin de sa vie, et un peu comme Romère aussi. Et donc... en partant du principe que les objets produisent un son, évidemment, la bouteille en plastique ne va pas produire le même son que la bouteille en verre, etc. Donc tout était, ça allait très très loin. Mais Romère aussi avait cette attention au fait que les matériaux, que l'histoire des objets a une histoire et qu'on ne doit pas tricher. Sinon, voilà. Mais sans pour autant vouloir produire un effet d'hyper-réalisme. Hein. Au contraire, c'est cette... cette vérité archéologique doit quand même produire un artifice, mais voilà, on n'est pas dans les faits de réel que condamnait un peu Barthes, mais néanmoins, c'est pas un paradoxe, voilà, il y a ce paradoxe quand même, cet arc de dire il faut que tout soit précis, que vraiment les objets qu'on voit et qu'on entend renvoient au temps dont on parle, et en même temps pour produire aussi un effet d'abstraction. Et donc, effectivement, ce qu'a écrit Bresson dans les notes sur les cinématographes, concernant le son comme l'élément le plus important et l'élément dominant de l'espace filmique, et ça, effectivement, c'est une des dimensions fondamentales à la fois du cinéma, mais de l'art tout simplement moderne et contemporain, des avant-gardes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à évidemment Dominique Petitgand. Et encore une fois, ces questions remettent évidemment en question, en tout cas mettent à la question l'hégémonie des images, de l'image. Alors là, effectivement, on peut retourner chez Debord et les lettristes, et après les situationnistes. Et en même temps aussi, ça remet en question les cloisonnements esthétiques qui divisaient les champs disciplinaires en art, peinture, musique, etc. Effectivement, tout le travail des avant-gardes, tout ce grand laboratoire qui finalement n'est pas terminé, qui a commencé il y a 2 siècles, au siècle précédent, effectivement, c'est toujours une reconsidération qui se rejoue différemment. Néanmoins, des dialogues croisés entre les arts. Après, il y a eu un moment de réactivation des années 50 avec toute la Black Mountain, etc. Mais même aujourd'hui, c'est toujours une question qui se pose comme question et qui, parfois, n'est pas évident. Donc, le combat doit toujours se mener. Alors, pour continuer toujours à déplier un peu ce qu'on entend par son, alors effectivement, on doit entendre tout le domaine de la musique, et y compris contemporaine, qui a sa logique en soi, le chant aussi, la récitation, le registre du bruit. En tout cas, le son des œuvres engage donc les jeux croisés du langage, de la parole, mais évidemment forcément après de l'écoute, là si on se place du côté de la réception, dont Roland Barthes a souvent souligné le caractère subtil et complexe. Et d'ailleurs, donc cette année a été l'année Barthes, il y a eu beaucoup de séminaires autour de Roland Barthes, c'est pas complètement fini d'ailleurs, et ça a permis de pouvoir assister à des séminaires, des colloques, etc., à relire les textes de Barthes. Et c'est vrai que Barthes a effectivement beaucoup écrit sur, sur la voix. Lui-même, il a tenté le chant, le piano, une grande connaissance de la musique, des passions absolues pour des grands musiciens. Mais ce qu'on peut-être on rappelle pas suffisamment, c'est qu'il s'est aussi très vite passionné pour la question de l'enregistrement. Et là, il y a vraiment des pièces, enfin des pages assez intéressantes dans Roland Barthes par Roland Barthes, où il raconte comment il aime s'enregistrer et étudier l'enregistrement de l'enregistrement, et comment, quand il s'enregistre, ou quand il réenregistre ce qu'il écoute de Schubert, Bach ou Beethoven à travers Richter ou d'autres grands interprètes, comment après il fait l'exercice d'écouter cet enregistrement d'un enregistrement, et il s'aperçoit que tout d'un coup, il est capable soit d'entendre la musique, soit d'entendre le style de l'un, de l'autre, ou d'oublier, de réécouter Bach. Enfin, ça, c'est vraiment intéressant parce que on n'a pas beaucoup pointé chez Barthes. On a beaucoup, évidemment, reparlé de ce qu'il appelait le grain de la voix d'abord, l'écoute aussi, plein de choses. Même dans le neutre, il y a des choses intéressantes. Mais la question de l'enregistrement, en tout cas, ça c'est, puisque demain, on parlera de surécoute, ça, c'est peut-être cette modernité renouvelée de Barthes, et son intérêt vraiment très profond et tout au long de sa vie pour ce qu'on peut appeler le régime allographique de l'art, donc les questions des partitions, et surtout de l'enregistrement, strictement parlé. Barthes, j'y reviendrai après, mais je vous engage à relire Barthes, c'est assez passionnant.
Quel est un ouvrage qui traite vraiment de ces questions?
Beaucoup, mais par exemple, la question de ces passages sur l'enregistrement, c'est dans Roland Barthes par Roland Barthes. Je ne sais plus quelle est exactement la page, mais c'est là. Sinon, il y a Le grain de la voix, évidemment, et puis il y a tous les textes, dans les essais critiques aussi, parce qu'il a aussi fait des textes courts qu'il a publiés et qui ont été regroupés, par exemple, dans les essais critiques. Parce qu'il a aussi, s'est passionné pour le théâtre et forcément la voix, et puis la musique. Et lui-même a voulu, enfin, il a pris des cours de chant, même si c'était dans une pratique amateur, et d'ailleurs, il était assez conscient du fait que ça ne dépasserait pas ce niveau-là. Et puis, il a beaucoup écrit sur la musique aussi, Schubert, et il y a aussi pas mal d'enregistrements à la radio qu'on peut retrouver sur la musique, donc des leçons de musique sur Schubert, Beethoven, sur le piano. Et donc, c'est un peu partout, mais dans les essais critiques, vous retrouverez plusieurs textes qui... Et puis, sur l'écoute aussi, évidemment. La voix, l'écoute. Mais l'enregistrement, la question de l'enregistrement, par contre, c'est plus... C'est un peu en pointillé partout, et c'est plus quand même regroupé, enfin, synthétisé dans ce passage du Barthes par Barthes. Roland Barthes par Barthes. Alors, d'autres artistes, toujours pour revisiter la modernité avant d'arriver à la période contemporaine, mais je veux bien faire ces va-et-vient parce qu'au fond, ça définit plutôt une grande famille plus que des catégories comme ça chronologiques. Alors, quelqu'un, par exemple, comme Marcel Brotas, on le connaît comme artiste, évidemment, lui-même ayant revisité complètement l'histoire du musée, ayant produit un contre-musée, une contre-histoire de l'art moderne, et ayant créé son propre musée d'art moderne, le département des Aigles notamment. Bon, ça, c'est une histoire des années 70 assez bien connue. Il a fait des films également. Mais pour, par exemple, un moment de son musée d'art moderne, département des Aigles, à Düsseldorf, il fait une émission radiophonique qu'il intitule « L'entretien avec un chat », donc « Interview with a cat », en 76. D'ailleurs, Filiou aussi a beaucoup pratiqué l'auto-enregistrement et la mise en abîme de soi-même, se parlant, etc. Là, en tout cas, il produit cette pièce qui est une sorte de longue conversation qui est enregistrée à la manière d'un entretien radiophonique. C'est-à-dire qu'il a enregistré une pièce sonore, mais il l'avait imaginée dans un faux direct comme une pièce radiophonique. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, il met tout ça un peu en abîme. Et donc il parle avec son chat, parce que c'est quand même le sien, donc il le connaît bien. Ça au moins, voilà. Et il s'entretient évidemment d'une question artistique, et il s'entretient avec son chat sur le rôle des musées, et surtout sur le titre d'un tableau de Magritte, évidemment fondamental, ceci n'est pas une pipe, et donc voilà, ils ont une discussion à ce sujet. Et donc c'est assez drôle, à écouter, à considérer. Dans un autre ordre d'idées, Sarkis, l'artiste d'origine turque, qui est plutôt un vidéaste ou quelqu'un qui fait des installations et qui a beaucoup travaillé autour du cinéma d'une manière un peu métaphorique, dans une pièce un peu rare qui s'appelle « Une lettre à déchiffrer », qui date aussi des années 70, donc 71, il se filme, alors là c'est une pièce vidéo, mais il se filme en train d'écrire une lettre à un ami. Donc c'est une lettre qui est écrite le 20 mars 71, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il enregistre le crissement. Alors il écrit à la plume, parce que exprès, il utilise un outil assez ancien, la plume, l'encre. Donc il enregistre par contre le crissement de la plume sur une feuille de papier. Alors il place évidemment un micro entre sa main, son souffle, etc. Donc le son de l'écriture, il produit un son d'écriture. Alors évidemment, on n'a pas accès à ce qu'il écrit, forcément, n'empêche qu'on... Voilà, on entend... Il y a des variations, etc. Le son, effectivement, suggère un espace d'expression, mais on ne peut pas déchiffrer, évidemment, la lettre, pas le sens de la lettre. Alors, ça, je voulais en parler parce que beaucoup d'artistes contemporains ont également tenté des expériences de ce type-là sur les limites des techniques d'enregistrement. Par exemple, ici, effectivement, la limite, enfin, ce que cette pièce met en abîme, c'est effectivement notre possibilité d'en savoir plus. Et surtout, c'est une lettre à un ami, c'est un contenu intime. Il n'en révèle pas du tout, au contraire, le contenu. Mais finalement, c'est les limites aussi du visible qui nous sont posées là. Et d'autres artistes, alors il y en a énormément... peut-être d'ailleurs Marcel Duchamp à Bruit-Secret, vous connaissez bien l'histoire, il enferme un objet et finalement jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas quel est l'objet, mais si on secoue l'objet, c'est une petite sculpture qui est assez peu expressive, elle produit un son, voilà. Et alors on peut imaginer tout ce qu'on veut de ce qu'il a mis comme objet personnel dans la boîte, donc ça c'est évidemment... Donc,
c'est un design,
oui, oui, en plus, c'est un ready-made comment, enfin, sonore, ou je ne sais pas trop comment dire, mais effectivement, voilà, c'est un geste délégué à la puissance au moins deux fois déjà, et tout est scellé, et on ne saura jamais. Bruce Nauman aussi a renouvelé l'histoire avec d'autres pièces, Robert Morris aussi, enfin il y a toutes des mises en abîme de l'image par le son, du son par l'image, de la réalité de l'objet, etc., de situations qui entraînent des perceptions qui sont vraiment déceptives, parce que voilà, on peut pas savoir plus, mais ça devient des objets iconiques. Et je trouvais que cette pièce Verkis, qui n'est évidemment pas trop connue, elle est intéressante parce que à un moment donné, quelqu'un qui s'était lancé dans une aventure liée au film et à la vidéo, comme Sarkis, qui a beaucoup fait de grandes performances et des installations avec beaucoup d'éléments visuels, des néons, etc., et vraiment besoin de tout d'un coup de produire cette œuvre un peu intime et qui le porte lui aussi d'ailleurs à enregistrer son propre souffle et les inflexions de sa main en train d'écrire. Et c'est vrai qu'on entend une écriture qui n'est pas continue, et puis en plus, comme il utilise une plume qu'il n'a pas l'habitude trop, avec laquelle il n'a pas l'habitude d'écrire, enfin nous non plus, donc on sent qu'il y a c'est difficile. Chez d'autres artistes, pour en revenir à un autre domaine qui serait plutôt là, alors j'ose quand même la bande originale, le son de BO, même si on sait qu'elle n'existe pas dans l'absolu. Donc chez les artistes plus contemporains comme Hugo Rondinone, et dont il y a une exposition actuellement d'ailleurs au Palais de Tokyo, Pipi Lautiriste ou Serge Comte, pour prendre des exemples complètement différents et disparates, néanmoins le son se dispose plutôt en bande originale, et là précisément à la manière de clip, c'est-à-dire là en faisant référence à tout le domaine du clip vidéo ou du clip sonore, enfin voilà, de la chanson, de la pop, etc., de rock et autres, mais en croisant au passage des motifs de l'autofiction, De l'autofilmage aussi, dans le cas de Serge Comte, de la ritournelle, bon, là, pour faire référence évidemment à tout ce que Deleuze a pu écrire sur ce sujet, mais peut-être au sens musical ou pas, peu importe. On s'aperçoit aujourd'hui aussi que Gilles Deleuze, d'ailleurs, un ouvrage collectif qui vient de sortir autour de ces questions de Deleuze et la musique, et la ritournelle à entendre comme une métaphore ou vraiment une ritournelle musicale. En tout cas, cette bande originale, cette bande son, elle modélise le récit et elle invente aussi le principe d'un cinéma hypnotique, lancinant, répétitif, puisque le principe même du clip, de la chanson, etc., c'est de l'écouter en boucle et donc de mettre le temps en boucle. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui est bien, c'est la boucle. Donc je suppose que tout le monde aujourd'hui, depuis quelques jours, écoute David Bowie en boucle. Enfin, moi, c'est pas mon cas, j'ai réécouté le dernier, en tout cas, en boucle. Voilà, ça c'est fait pour. En tout cas, ces œuvres et d'autres mettent en exergue des effets retard aussi, des effets de contretemps propres à ce que génère le temps de la chanson, le temps de du souvenir entre le présent et le passé, même si ce passé est très court ou il est très 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 long. En tout cas, ça génère toujours un sentiment d'une nostalgie qui est réversible ou irréversible. Enfin, il y a tous ces moments aussi dans la perception qu'on a dans nos affects aussi, une réverbération entre le temps du souvenir, le temps de la chanson, le passé, enfin toutes ces histoires là dont par exemple toute l'œuvre de Ange Leccia interroge, à mon avis, enfin jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un aussi comme Claude Lévesque, qui n'est pas forcément connu comme un artiste sonore, néanmoins, quand on prête attention à son œuvre, le son est tout le temps là, et même plus que présent. Et on peut dire que toutes ces installations dites plastiques sont des installations sonores et qui sont vraiment configurées comme des espaces d'expérience, soit à vivre, soit un peu répulsive, parce que toute tout le travail du son qu'il avait créé pour son exposition il y a assez longtemps au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, qui consistait à faire entendre en boucle un cri humain, insoutenable. Bon, c'était insoutenable déjà pour le public, mais pour les gardiens, ça avait créé vraiment un gros problème, parce que les gardiens, sensibles donc à ce que disait l'œuvre, ne pouvaient pas rester plus de 2 heures. Et donc, la direction de musée avait dû organiser une rotation plus courte, parce qu'ils craquaient, quoi. Ça les mettait vraiment dans un mauvais état, et on peut comprendre, parce que c'était assez insoutenable. Claude Lévesque, beaucoup d'œuvres chez lui. Suggère par exemple un espace intime, le murmure d'une chanson, ou alors le cri et la stridence d'un bruit insoutenable, ou carrément des bruits, non pas des voix, mais des bruits d'explosion. Voilà, par exemple, son œuvre très très belle qui est consacrée à sa mère en train de mourir. Donc c'est une pièce qui avait été montrée il y a quelques années chez Yvon Lambert et ensuite qui a été présenté ailleurs. Il avait créé un tipi en feutre très très important, volumineux, dans lequel on rentrait dans le noir. C'était dans le noir. Et il fallait, en marchant, on était guidé par une petite lumière qui émanait du centre du tipi. Et là, si on écoutait bien, on entendait en boucle, ça, c'était une chanson, c'était sa mère qui chantait faux, puisqu'elle chantait faux, elle n'était pas chanteuse, qui chantait une chanson de Joe Dassin, l'été indien, avec une voix un peu hésitante, un peu éraillée de quelqu'un en plus qui était très malade. Et c'était ce qu'il avait recueilli de sa mère. Et c'est vrai que c'était aussi très très beau, mais un peu difficile à écouter longtemps, parce que on sentait que son souffle, elle avait du mal à chanter. Et en même temps, c'était vraiment une déclaration d'amour à son fils. Alors, par exemple, et d'autres œuvres contemporaines aussi, scénarisent des paysages, mais alors là, au sens même traditionnel du paysage. Et c'est là où je vais vous faire écouter le premier extrait d'une œuvre. J'en reviens ici aux explorations, alors là, beaucoup plus musicales, électroacoustiques, des mondes lunaires de biosphère. Donc, je vais y revenir. Je vais présenter cette œuvre, mais sinon, on peut aussi penser, par exemple, à tous les paysages sonores qui évoquent des géographies, évidemment, Ranaldo ou Jean-Baptiste Bruand, Jean-Baptiste et Maria Bruand, ou par exemple Max Neuhaus, auquel on rend hommage en ce moment à travers plusieurs conférences. Concernant biosphère, donc autour de la Lune, il s'agit d'une création sonore d'un collectif islandais, voilà, si je ne me trompe pas, d'un collectif islandais dont le principal protagoniste, même s'il ne souhaite pas qu'on le nomme, enfin je vais vous dire qui c'est, mais parce qu'il y a aussi ses collaborateurs, mais qui sont un peu comme ça anonymes. Bon, il s'appelle Geir Jensen, mais en tout cas c'est Biosphère, voilà, il revendique ce nom de groupe. Donc ils ont répondu à une commande, donc ils ont fait créer une pièce autour de la Lune, Jules Verne, mais en même temps, elle a été créée dans la perspective de passer à la radio. Donc c'est pas du direct, évidemment, c'est une création, mais ils l'ont imaginée vraiment pour être diffusée en radio, donc par rapport à une écoute, évidemment, à distance, dialogique. Et on va peut-être écouter le début. Alors, je peux donner le sommaire de la pièce. Elle comporte 14 plages. 1, le projectile. 2, silence, virgule, certes. 3, montons dans l'espace. 4, l'astéroïde. 5, un peu d'algèbre. 6, déviation. 7, enfin, on arrive à la Lune, la carte de la Lune. 8, la mer des nuées. 9, le pôle nord de la Lune. 10, le volcan. 11, la nuit profonde. 12, la lune de lune. 13, tombons-nous. Et 14, à la volonté du ciel. Alors évidemment, ça reprend le texte de La Terre à la Lune de Jules Verne. Mais en même temps, de manière libre. Alors vous verrez, il y a à la fois une création musicale, il y a des archives. Bon, on va écouter peut-être le début, tout simplement. C'est bon, là, si c'est... Et puis après, je suppose que c'est comme ça. Le son, je ne sais pas si... Ça va ? Là ? Je ne sais pas s'il y a eu des réglages avant, mais... Je
silence le mouvement plaît. Silence, certes. Oui, la vitesse du projectile est trop élevée. S'il marche pour que nous puissions l'entendre.
Et nous avons donc franchi le mur du son.
Le mur du son, oui, nous l'avons franchi et beaucoup. D'ailleurs, regardez le thermomètre. Il marque 45 degrés.
Allons.
Cette chaleur traverse les parois du projectile, mais cela ne va pas durer. Car nous allons bientôt sortir des couches atmosphériques pour flotter dans le vide. Et alors, après avoir failli étouffer de chaleur, nous allons subir des froids intenses.
Mais nous allons donc pénétrer dans le silence de ces espaces infinis.
Oui, mais attendons, car rien n'est moins prouvé. Sachant d'abord où nous en sommes et rabattons les panneaux.
Thank you.
Non, mais un astéroïde de Bethesda.
Est-ce possible? La Terre pour deux
lunes. Oui, mon ami, mais cette seconde lune est si petite et sa vitesse est si grande que les habitants de la Terre ne peuvent pas.
Voilà, donc on n'a pas peut-être tout écouté. J'ai mis les quatre premières plages. Donc là, le projectile, silence, certes, montant dans l'espace. Et là, la quatrième plage était l'astéroïde. Ensuite, un peu d'algèbre. Donc ça donne un peu une idée de cette création, même si La création sonore après est un peu différente, mais en tout cas, c'est un montage aussi d'extraits et d'archives d'un enregistrement ancien du texte de Jules Verne du voyage de la Terre à la Lune, dont ils ont pu bénéficier aux archives de la radio, puisque c'était libre de droit. Donc, ils ont monté un peu ces dialogues avec ces accents un peu anciens des années 60 de la radio, et ça a été monté avec leur propre interprétation sonore et musicale pour suggérer qu'on monte dans l'espace et on va arriver sur la Lune. Voilà. C'est à peu près ça leur contribution à cette pièce assez récente.
Est-ce que vous savez chez qui c'est sorti ?
C'est sorti chez personne, c'est une création qui est une commande publique du ministère, donc c'est une œuvre. Inédite et qui ne va pas avoir de sortie commerciale. Donc il n'y a pas après un label ou un éditeur, il n'y en aura pas. Et c'est dans les archives maintenant de la radio.
Il y a un groupe qui s'appelle Biosphère, qui est sur son cofondateur d'un label qui s'appelle Rune Gramophone.
Oui, non, mais c'est eux. Mais sauf que là, comme c'est une commande, oui, ils sont norvégiens, pas islandais, pardon, je me suis trompée. Mais comme c'est une commande, là, c'est au titre de Biosphère, et en particulier, Geir Jensen, mais c'est en dehors de leur propre, label, édition, etc. D'accord. Et c'était une commande, ils ont joué le jeu. Alors maintenant, on le trouve à radio, enfin, on peut l'écouter dans les archives de l'INA. Sinon, au ministère, ça c'est la copie que j'ai prise, c'est commandé par le ministère, mais c'est pas édité. Non, ça aura pas de... C'est une commande publique, il n'y a pas d'éditeur.
Et c'est sorti cette année ?
Non, il y a. Bon, ça a été créé, je ne sais pas, il y a 5-6 ans peut-être. Voilà, donc on ne va pas le trouver. Sauf à les contacter et puis à ce qu'ils envoient une. Enfin, je ne sais pas si vous les connaissez. Il faut les contacter directement, peut-être, si vous voulez avoir une.
Mais c'était
copie.
Plus pour faire le lien, pour savoir si c'était les mêmes.
Oui, c'est les mêmes. Non, c'est Biosphère. Oui, c'est eux. C'est eux.